Ce colloque, en effet, est une manifestation de commémoration et d'hommage, commémoration de l'apparition d'un ouvrage extrêmement important qui a, dans son sillage, entraîné la création d'une école, l'histoire du livre, d'hommage aux deux auteurs dont les noms ornent sa page de titre. Ce colloque s'inscrit dans un ensemble de manifestations, et je pense qu'il convient de le rappeler ici et maintenant, puisqu'un autre colloque saluant la parution de l'apparition du livre s'est tenu en mai dernier à la Bibliothèque nationale de Hongrie, sous l'égide de notre ami le professeur István Monok, directeur général de la Bibliothèque nationale de Hongrie, qui est parmi nous aujourd'hui et qui interviendra dans les jours qui viennent. Donc ces deux colloques sont d'une certaine manière le pendant l'un de l'autre. Ce colloque, comme il vous a été dit, a été co-organisé par l'École pratique des hautes études, par la Bibliothèque municipale de Lyon et par l'ENSIB. Il est donc le fruit de ce travail de partenariat, travail dont il est une des manifestations parce que tout au long de l'année, il nous arrive fréquemment de travailler avec la bibliothèque municipale, c'est même quasiment quotidien, si je puis dire, et puis régulièrement avec l'École pratique des hautes études. Ce colloque a vu ses dates un peu bousculées. À l'origine, nous avions prévu de le tenir 8 jours plus tôt, et puis nous avons dû le repousser pour diverses raisons. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs, sur lesquelles il faut que je m'explique un tant soit peu. D'abord parce que la semaine du 8 décembre s'avérait un assez mauvais choix compte tenu des déplacements touristiques occasionnés par les manifestations lyonnaises du moment. Tous les hôtels étant réquisitionnés par les tour opérateurs pour les touristes. En plus, et ça je ne l'ai su qu'après, il y avait la semaine dernière un gros colloque Polutech, ce qui fait qu'on ne trouvait plus une chambre de libre à Lyon et que nous avons même eu des problèmes pour loger un de nos intervenants. Donc nous avons finalement bien fait de différer d'une semaine l'organisation du colloque, même si cela a des inconvénients, puisqu'un certain nombre d'orateurs n'ont pas pu venir. Alors certains, à cause justement de ce changement de date, je dois donc excuser le professeur Jean-Yves Mollier, qui est à un colloque à Toronto cette semaine. Excuser également le professeur Durand de Liège, dont la communication sera lue demain par Monsieur Tanguy Abrant. Le professeur Durand est lui aussi à Toronto. Les colloques s'enchaînent et se bousculent. Je dois excuser également l'absence de Robert Darnton, qui a pris au cours de l'année dernière la direction des bibliothèques d'Harvard et qui est assez submergé de problèmes divers et variés de gestion de cet ensemble assez titanesque, puisque les bibliothèques d'Harvard, c'est pas moins de 100 bibliothèques dispersées aux États-Unis, mais aussi pour certaines en Europe. Et donc, à son grand regret, il a dû renoncer à être des nôtres pour l'occasion. Comme il vous l'a été dit, et comme c'est la tradition pour les manifestations scientifiques organisées par l'ENSIB, nous comptons bien en publier les actes. au prince de Lensib le plus vite possible. Donc, je me mettrai en contact avec les différents intervenants pour voir avec eux le calendrier auquel récupérer les textes de leurs interventions. Enfin, ce colloque a été organisé autour de cinq axes qui constituent autant de demi-journées. Cet après-midi sera consacré à l'héritage de 1958. La matinée de demain matin au livre Cette marchandise. Le terme est directement emprunté à l'apparition du livre. Demain après-midi au livre en tant qu'objet matériel. Samedi matin au livre Ce ferment. C'est là encore un emprunt direct au titre du dernier et monumental chapitre de l'apparition du livre, rédigé par Henri-Jean Martin seul. Voilà donc quels sont les grands axes qui présideront à nos travaux. Je ne sais pas si Frédéric souhaite d'ores et déjà dire quelques mots. Sinon, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose très rapidement de revenir sur l'événement qu'a constitué au tout début de l'année 1958 la sortie de ce livre, dont l'achevé d'imprimer porte la date du 31 décembre 1957. Donc il est presque temps que nous fêtions le 50e anniversaire, puisque c'est presque le 51e anniversaire, mais vous ne le répéterez pas, de la publication de cet ouvrage magistral. La genèse de cette publication a été rapportée par Frédéric Barbier dans la postface de la troisième édition de ce livre, publié en 1999. Donc mon petit propos d'aujourd'hui lui emprunte beaucoup. Je compte sur lui pour corriger mes erreurs ou pour apporter quelques précisions que je n'aurais pas faites. Ce livre, donc, lorsqu'il paraît, est doté de cette jaquette que vous avez vue, sur laquelle figurent deux portraits, celui de Lucien Febvre, un historien connu et reconnu, un mandarin, qui est mort depuis 18 mois, lorsque l'ouvrage sort des presses, et celui d'un jeune chercheur d'une trentaine d'années, totalement inconnu, qui s'appelle Henri-Jean Martin. La quatrième de couverture de l'ouvrage en elle-même est un résumé assez stimulant de certains des apports du livre en question. Je cite certains de ces extraits. On verra dans ces pages comment typographes, maîtres imprimeurs, libraires, auteurs ont constitué un monde à part qui, à cette époque, tout imprégné encore de Moyen Âge, avait un état d'esprit étonnamment ouvert, moderne pourrait-on dire, et dont nécessairement l'influence fut grande. Ainsi les hommes ont fait les livres, et les livres ont à leur tour façonné les hommes. Histoire de la pensée, histoire des techniques, érudition bibliographique, psychologie des sentiments, connaissance des hommes, tout cela était nécessaire. Tout cela a été effectivement mis à contribution ici par Lucien Febvre et Henri-Jean Martin. Maintenant, grâce à eux, se trouvent mieux éclairées les origines de nos manières de vivre et de penser et se voient mieux les origines du monde moderne. Lorsque ce livre paraît, il a en fait déjà une très longue histoire qui a été narrée par Frédéric Barbier. Il a une très longue histoire, puisque il est né d'une idée d'Henri Behr, ancien élève de l'école normale supérieure, promotion 1881, qui fonde en 1900 la revue de synthèse historique, ancêtre de l'actuelle revue de synthèse, et qui, en 1912, lance une collection, d'abord intitulée « Bibliothèque de synthèse historique », prévue en 100 volumes, et qui va très vite devenir « L'évolution de l'humanité », publiée chez Albin Michel, avec cette couverture brique caractéristique. Et dans le programme de ces 100 volumes, il y a un tome 51, qui par la suite va devenir 49, mais qui reste malgré tout quelque sorte pivot de la collection, qui doit porter sur le livre. Sa rédaction est confiée à un très grand historien, aujourd'hui peut-être un peu oublié, Augustin Renaudet, qui, hasard du calendrier, est mort en 1958, année de la publication du livre qui lui avait été confié et qu'il n'a jamais écrit. Henri Baire, lui, en a d'une certaine manière confié la charge dès 1914. Et le lui a rappelé en 1925. Et Renaudet, pris par beaucoup d'autres choses, n'a pas rédigé ce livre. Il a été amené à renoncer à sa rédaction à la fin de l'année 1929, et c'est alors Lucien Febvre qui a été choisi pour en prendre le relais. Bon, Lucien Febvre, lui aussi, a été très occupé, a publié beaucoup d'ouvrages importants, et le livre sur le livre est resté pendant très longtemps dans ses cartons. Voici une photographie d'Henri Baire à son bureau. Assez caractéristique. Ça me rassure de penser que le mien n'est pas encore dans cet état-là, tout à fait. Donc, Lucien Febvre, on ne le présente pas. Tout le monde le connaît. Lorsqu'il se décide enfin à se préoccuper de ce livre-là, il est très, très occupé. Il a en chantier le problème de l'incroyance au XVIe siècle, qui va être un livre majeur, lui aussi, et il songe à se faire seconder pour l'écriture de certains livres prévus au programme de l'évolution de l'humanité. Il envisage de travailler en tandem, en se faisant seconder à chaque fois et pour chaque sujet par un jeune. C'est ainsi qu'il rencontre un jeune bibliothécaire en poste à la Bibliothèque nationale, Henri-Jean Martin, et qu'il écrit en mai 53 à Baire : « J'ai vu avant-hier un bibliothécaire de la nationale pour me seconder dans l'apparition du livre. » Comme vous le savez, Lucien Febvre ne verra pas la publication de cet ouvrage, puisqu'il meurt assez subitement le 27 septembre 1956. Le second couteau, si j'ose dire, c'est donc Henri-Jean Martin, et Frédéric Barbier a publié des extraits de cette très belle lettre que Febvre lui écrivait le 26 mai 1953. Henri Baire est très désireux de voir paraître aussi rapidement que possible cet ouvrage. Ce livre ne doit pas être une histoire du livre. Il existe des livres utiles à ce sujet. Il est inutile de les refaire. Mais je voudrais qu'il étudie le livre en tant qu'auxiliaire de la pensée. Que vaut le livre comme outil de pensée? Quand il n'existait pas, avant qu'il n'existât, comment la pensée se diffusa-t-elle dans l'Europe occidentale? Avec quelles difficultés et quelles restrictions? Pourquoi, à un moment donné, cette invention, qui était en gestation depuis longtemps, a-t-elle trouvé un terrain favorable? Et quel progrès la typographie a-t-elle marqué par rapport aux manuscrits? Voilà le problème essentiel que je voudrais poser à l'aide de faits empruntés au XVIe et XVIIe siècle, sans aborder le XVIIIe ni le XIXe qui posent d'autres problèmes. Je ne me restreindrai pas naturellement à ces seuls problèmes. Il faudrait examiner le livre en tant que marchandise, en tant que chef-d'œuvre, en tant que ferment. Les termes sont déjà là. Il faudrait évidemment ne pas négliger les hommes et les métiers du livre, ni la géographie du livre, ni la statistique du livre. Tout ceci fort intéressant et qui composera un livre alléchant et plein de choses nouvelles. C'est donc Henri-Jean Martin qui va faire l'essentiel du travail. À l'époque où Fèvre lui confie cette charge, il a 29 ans, il est entré à l'École des Chartes en 1943, il est l'auteur d'une thèse d'École des Chartes sur Eustache le Noble, bien oublié aujourd'hui, mais il avait dans son jury une très grande personnalité, Julien Quin, qui a repéré le jeune homme de talent et qui l'a fait nommer à la réserve de la Bibliothèque nationale. À partir de 1950, Henri-Jean Martin commence à publier des articles, et en particulier en 1952, un article important dans les Annales, article qui a été revu déjà à l'époque par Lucien Fèvre. Et on peut dire que c'est de ce moment-là que date d'une certaine manière la collaboration entre Lucien Fèvre et Henri-Jean Martin. Ce dernier commence donc à travailler à l'apparition du livre en mai-juin 1953. Le rôle de Lucien Fèvre est resté assez limité, limité à la rédaction d'une préface-programme qui est restée dans l'ouvrage lui-même, à des relectures, à des corrections ponctuelles, jusqu'à ce que la mort, finalement, mette fin à la collaboration des deux hommes, très subitement. Et Henri-Jean Martin s'est donc retrouvé seul en charge de cet ouvrage. Il s'est donc fait aider de quelques confrères et amis pour achever seul ce volume. Et il est le seul responsable et rédacteur du long chapitre final, 109 pages sur les 560 du manuscrit, le livre se fermant, qui finalement posait un certain nombre de problèmes quant à son insertion dans le plan prévisionnel et à propos duquel Fèvre avait lui-même un certain nombre d'hésitations que Martin a tranché d'une certaine manière en rédigeant ce très très long texte très important. L'ouvrage paraît donc, comme je vous l'ai dit, au tout début de l'année 1958. On doit bien avouer qu'il y a eu assez peu de recensions sur le moment. Il est peut-être passé un peu inaperçu sur le moment. Il était pourtant destiné à avoir une aura bien supérieure à beaucoup d'autres livres recensés cette année-là. Cet ouvrage a donc connu trois éditions françaises, l'édition originale de 1958, dont la jaquette que vous voyez là cache la couverture couleur brique, une édition en format de poche de 1971, je me permettrai de dire que c'est par cette édition-là que moi, à mon époque, j'ai pour la première fois rencontré Henri-Jean Martin, par la lecture de ce petit livre, et une réédition de 1999 qui est donc dotée de cette postface explicative due à la plume de Frédéric Barbier. L'ouvrage a été traduit en 8 langues. Certaines traductions sont venues même assez tard. La première traduction est une édition faite au Mexique en 1962. L'édition anglaise de Coming of the Book est arrivée tard, en 1976 seulement. Il y a eu en 1977 une édition italienne que vous voyez reproduite ici, puis une édition en japonais, dont je n'ai pas trouvé de photo, une édition en portugais du Brésil, une édition portugais du Portugal, une édition en hongrois et la dernière édition en chinois à Taïwan. Voilà quelles sont les éditions actuellement, les traductions actuellement connues de cet ouvrage. Cet ouvrage, comme vous le savez, a été à l'origine de la fondation d'une véritable école d'historiens du livre, puisqu'Henri Jean Martin a exercé dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, l'École pratique des hautes études, l'École nationale des chartes, l'École nationale supérieure de bibliothécaires devenue depuis ENSIB, qu'il a de ce fait formé pendant une trentaine d'années la quasi-totalité des bibliothécaires français, quelques bibliothécaires étrangers, beaucoup de chercheurs français et étrangers qui se pressaient à son séminaire du lundi. Ce livre est donc constitué d'une certaine manière la pierre d'angle de cette école historique qui est aujourd'hui encore vivante. Et c'est donc la postérité de cet ouvrage qu'il nous appartient d'interroger dans les deux jours qui viennent. Voilà, et voilà un bug intempestif qui arrive à l'instant voulu. Merci. Que Frédéric aura sans doute...
Merci à Dominique. Et donc, sans plus tarder, Frédéric, pour quelques mots d'introduction.
Merci, Madame la Directrice. Et mon cher Dominique, je n'avais pas prévu de dire un mot aujourd'hui, mais bon, une minute seulement, l'apparition du livre publié en 58 est en effet aussi un modèle de un cas particulier plutôt de comment on peut dire d'exemple relatif à la bibliographie matérielle, parce que non seulement il porte l'achevé d'imprimer du 31 décembre 57, mais on a découvert avec Madame Martin qu'il y avait une édition antérieure à l'édition que tout le monde connaît. Oui, mais bon, on le sait. À savoir que l'ouvrage, pour une raison qui m'échappe, je dois dire, on a vérifié que c'était bien réel. On s'est un peu posé la question au départ. L'apparition du livre a paru d'abord en livraison dans le cadre de la bibliographie de la France de 57. Alors, je dois dire, Mme Martin a comme on disait autrefois, les placards de cette édition, et en la découvrant, on était un peu étonné, mais c'est quelque chose qui a été publié dans la biographie de la France de l'année antérieure à 58, et donc que probablement la plupart des grandes bibliothèques ont, puisqu'aussi bien on est abonné à la biographie de la France. Pour une raison qui m'échappe, parce que je vois pas très bien l'intérêt de l'éditeur à publier en livraison dans le périodique auxquels sont abonnées toutes les bibliothèques, qui précisément constitueraient une partie des clients de son livre dans un deuxième temps. Mais le fait est que ça a eu lieu, donc je le signale par curiosité. Et le dossier qu'a évoqué Dominique Vary il y a une seconde pourrait être complété depuis quelque temps complété malgré tout avec sur la base des papiers que Monsieur Martin a laissés et qui sont maintenant disponibles, dont un certain nombre de lettres aux uns et aux autres relatifs à ces questions un peu d'historiographie. Alors, je signale simplement la chose en passant, en rendant hommage d'ailleurs à Madame Martin de nous avoir permis d'avoir accès à ce type de documentation. Quant à la suite de mon propos, elle est très brève. Je crois qu'il ne s'agit pas ici de faire quoi que ce soit de protocolaire, simplement plutôt quelque chose qui s'articule avec la cordialité au sens étymologique du terme, ça veut dire les mots qui viennent du cœur. Donc nous sommes réunis en effet pour rendre hommage à ce livre qui, enfin Dominique étant, je dois dire, plus jeune que moi, ce qui me permet de le dire. Je crois qu'en 58, on n'avait pas la moindre idée, quand on était malgré tout déjeuné, de ce dont il s'agissait. Donc quelque chose qui a marqué un peu notre manière de penser depuis qu'on l'a découverte. En 58, l'histoire du livre telle qu'on l'a conçue en France est une histoire qui s'intègre à l'histoire générale, en somme, telle qu'elle a été conçue dans les années 60. Ça veut dire une histoire sociale, économique, et l'histoire du livre était censée entrer comme un élément dans cette histoire globale, comme l'a appelé Pierre Chaunu d'ailleurs, avec un codicille qui est l'histoire du livre, c'est la voie royale, tout au moins pour les modernistes, d'accès à la connaissance de la ce qu'on appelait dans les années 70, quand on était étudiant, l'histoire des mentalités. Comment aborder l'histoire des mentalités, sinon avec des sources, et évidemment l'histoire des sources écrites ou imprimées, pas seulement les livres, mais toutes sortes de choses imprimées, constitue une voie tout à fait privilégiée pour ça. Donc c'est en pensant à cela qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans peut-être, je m'étais dit, nous pourrions faire un colloque un peu à la fois commémoratif et programmatique à l'occasion du cinquantenaire de cette publication de 58, qui présentait un inconvénient d'ailleurs auquel tu as fait allusion avec discrétion. Quand on dit l'héritage de 58, dans le langage courant, on ne parle pas d'histoire du livre, on parle plutôt de la Ve République et d'un certain nombre de choses, de l'histoire de France, tout au moins en France. On avait un peu hésité avec ce titre, mais le fait est que l'héritage de 58, pour nous, ça convenait assez bien aussi pour se démarquer peut-être par rapport à une tendance un peu générale. Donc il s'agit de faire à la fois un hommage rétrospectif à cette publication et en même temps d'envisager un certain nombre de choses qui pourraient être construites dans l'optique de ce que Martin aurait aimé voir se développer. Et nous avions organisé ce colloque en deux temps, comme Dominique Vary a fait allusion. Un premier temps qui s'est tenu à Budapest à la fin du printemps, et le deuxième temps aujourd'hui à Villeurbanne et à Lyon, l'ensemble faisant un tout. Anne-Marie Bertrand y a fait allusion, je suis un peu chargé aussi de présenter les excuses de Jean-Claude Vaquet, notre président de l'École des hautes études, qui est à Paris pour commission administrative, enfin conseil d'administration de l'EPHE, le président étant obligé évidemment d'être au conseil d'administration, il n'avait pas le choix, et la saison étant, comme vous savez sans doute, assez compliquée pour les structures universitaires, il avait encore moins le choix, mais il l'a regretté parce que Dominique y a fait allusion il y a 2 minutes, nous sommes tous les élèves en somme d'Henri Jean Martin, et Vaquet aussi est un ancien élève d'Henri Jean Martin, ça l'a un peu attristé de ne pas être disponible aujourd'hui. Je dis juste une chose ou deux pour conclure. Ce colloque ne se tient que grâce à la collaboration efficace que nous entretenons avec l'ENSIB. Sans l'ENSIB, rien n'aurait pu s'organiser. La logistique lyonnaise, une bonne part du contenu du colloque est lyonnais. Donc il faut rendre hommage aussi à nos hôtes d'aujourd'hui, qui eux aussi sont des anciens élèves d'Henri Jean Martin. Peut-être ce colloque pourrait-il déboucher sur un certain... On a fait allusion à l'historiographie, à l'épistémologie. Peut-être faudrait-il aussi envisager les développements possibles de ce qui concerne notre domaine de réflexion, je veux dire l'histoire du livre, développement possible. Entre 58, l'année de publication de l'apparition du livre, les années 60, la décennie 70 où nous étions nous-mêmes étudiants, où on a pris connaissance de toute cette problématique, et puis la période actuelle, il s'est quand même passé énormément de choses, notamment dans le domaine des médias. Donc ça peut être aussi une occasion de discuter des formes a donné à l'histoire du livre du futur. Martin disait toujours dans les dernières années, en somme, il n'était pas sûr que l'histoire du livre est une justification à exister en tant que discipline autonome. Et la question qui a été soulevée aussi par Jean-Dominique Mélo à propos de l'histoire des médias, elle reste intéressante. De même, Dominique a fait allusion à la rupture tout à fait réelle entre les, je crois que c'est le 8e chapitre, le chapitre sur le livre se fermant, et les 7 premiers chapitres, le livre, cette marchandise. Dans l'apparition du livre, il y a 7 chapitres, disons, un peu classiques, je veux dire des chapitres de 30, 40 pages, et puis un 8e chapitre qui fait 110 ou 120 pages. À l'origine, dans le plan de Fèvre et Martin, il y avait deux parties, le livre, cette marchandise, donc en 5, 6, 7 chapitres, peu importe, et puis une deuxième partie qui était le livre se fermant. Et après le décès, la disparition de Fèvre, Martin m'a dit 50 fois peut-être que Fèvre n'avait pas eu, dans les années 58, en somme, l'état des lieux, l'état des connaissances, l'état d'historiographie n'avait pas permis à Fèvre et à Martin d'articuler si efficacement la question du livre comme marchandise, c'est-à-dire comme objet, d'abord comme objet, ce dont on parlera ces jours-ci, et comme objet marchand, qui a une valeur marchande, qu'on peut acheter, vendre, et qui est objet d'un négoce. Et puis la question du livre se fermant, on se plaçait toujours dans une optique d'histoire un peu littéraire, histoire des idées, donc la question, par exemple, de savoir quelle est la place du média, du livre, ou de l'imprimé, dans l'émergence, ou dans les développements ensuite, du mouvement de la réforme. C'était ça qui intéressait notamment Fèvre et ses élèves dans les années dont on parle ici. Et l'articulation n'a pas été assurée par l'apparition du livre. Alors, on peut proposer de le faire par d'autres biais. Moi, j'avais proposé le concept d'utiliser l'idée de marché, mais c'est une question qui reste pendante. Alors, vous voyez, les 3 jours ou 2 jours et demi qui s'ouvrent maintenant peuvent permettre, j'espère, nous espérons de développer, de poser un certain nombre de jalons. Et aussi, on en parlera, je crois, tout à l'heure, avec nos collègues du CERL, d'envisager peut-être, autour de l'ENSIB en particulier, la manière de coordonner les recherches ou le travail en histoire du livre, étant donné que l'histoire du livre est une discipline à la rencontre d'un certain nombre de structures institutionnelles. C'est de l'histoire, mais c'est de l'histoire littéraire. C'est de l'histoire moderne, mais c'est de l'histoire contemporaine. C'est de la sociologie. Ça ne rentre pas si facilement que ça dans les catégories universitaires ou dans les catégories de la recherche, pour autant qu'elle existe encore ou qu'elle existera d'ici quelques années, de la recherche publique, disons, au CNRS, par exemple. Et donc, envisager aussi la manière d'institutionnaliser un petit peu un domaine qui, pour lequel on a eu en France peut-être une certaine avance pendant un moment, mais pour lequel on se trouve aujourd'hui un peu en peine parce que il est institutionnalisé à l'extérieur. Par exemple, chez nos collègues espagnols, il y a des centres d'histoire du livre qui fonctionnent maintenant à plein régime, et chez nous, l'institutionnalisation est sans doute moins avancée. Alors peut-être serait-ce l'occasion de réfléchir à ce genre de problématiques. Donc, je veux dire, j'ai noté ce que Dominique a passé tout à l'heure au tableau, ou plutôt avec PowerPoint. J'ai noté la petite citation à notre époque, ou plutôt à cette époque. C'est quand même l'histoire de l'apparition du livre, une histoire qui est aussi contextualisée du point de vue historiographique. Quand on lit à cette époque, tout imprégné un corps de Moyen-Âge, le progrès reste possible, en somme sous-entendu, et le livre va être le vecteur de ce progrès. C'est quelque chose qui m'avait un peu frappé en écrivant la postface sur laquelle on a fait allusion. Donc moi, j'en ai terminé. Je remercie nos hôtes d'aujourd'hui et je remercie surtout les participants d'être venus par un temps agréable mais qui complique parfois les déplacements à Lyon, et je souhaite que tous les uns les autres y trouveront ce qu'ils sont venus y chercher.